Sud Radio, il est 2h. Parlons vrai.
Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Parlons vrai avec vous sur Sud Radio, comme chaque jour, vous nous appelez 0826-300-300. Manu vous attend au standard, quel que soit le sujet dans l'actualité. Vous voulez discuter à l'antenne, si vous voulez réagir à l'actualité, mais si vous voulez aussi témoigner de ce que vous vivez au quotidien. Vous nous appelez 0826-300-300. Parlons vrai également avec Maxime Troulot qui nous a rejoint. Bonjour Maxime.
Bonjour Benjamin.
Avec un certain nombre de sujets qu'on va évoquer dans l'actualité, Maxime, et qui peuvent vous faire réagir au 0826-300-300. On parle tout d'abord, de la SNCF, avec des salaires pour les cheminots pré-retraite, c'est ça ?
Ah oui, en fait, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont signé ce lundi avec la direction un accord sur les fins de carrière des cheminots. Que dit-il ? Eh bien, par exemple, pour les conducteurs ou les aiguilleurs, ils pourront partir jusqu'à 30 mois avant à la retraite, donc 15 mois travaillés rémunérés à 100%. Pour les contrôleurs, c'est quand même encore plus avantageux. 18 mois non travaillés rémunérés à 75%. Les cheminots qui menaçaient de faire grève, notamment pour les ponts du mois de mai.
Ça vous fait réagir. Dans un instant, on sera avec Frédéric. On poursuit avec... on va parler de l'archéologie des bâtiments. Oui. C'est assez rare, mais avec une proposition de Rachida Dati qui peut faire réagir. Ouais.
Oui, la ministre de la Culture souhaite mettre en question l'archéologie préventive. C'est quoi ? C'est le fait d'imposer des fouilles systématiques avant d'engager un chantier. Rachida Dati souhaite alléger le protocole. Ça a fait réagir notamment les archéologues qui sont aujourd'hui révoltés en colère.
Et sur Sud Radio, on peut parler également du couvre-feu pour les mineurs de plus en plus.
Oui, qui s'élargit. Ouais. Puisqu'on connaissait déjà Cannes-sur-Mer depuis 2004, récemment à Pointe-à-Pitre pour les moins de 18 ans, Béziers depuis lundi, et bientôt ça sera le cas de Nice, dans 3 quartiers, couvre-feu pour les moins de 13 ans dès 23h. Ça sera dès le 1er mai jusqu'au mois de septembre prochain.
Allez, les salaires des cheminots pré-retraite, ça vous fait réagir. On est avec Frédéric au 0826-300-300. Bonjour Frédéric.
Bonjour Benjamin, merci de prendre l'antenne. Oui, je suis un retraité, hein, je vais le dire honnêtement. Mais
de la SNCF.
Ouais. Voilà, de la SNCF. Voilà. Hein, mais okay. il y a déjà de nombreuses années.
Okay.
Bon, je voudrais déjà juste simplement brosser le tableau actuel. Depuis le 1er janvier 2020, tous les embauches de la SNCF ne sont plus au statut. Hein, les gens, ce sont simplement des CDI. Donc, il faut bien se mettre ça dans la tête. Hein, la réforme de 2018 hein, de Macron pour casser la SNCF, bon, ça aboutit. Et au 1er janvier 2020, tous les embauches sont faites comme des gens, comme vous et moi, hein, dans CDI.
Oui.
Donc, on se retrouve au niveau de cette entreprise avec des gens qui sont quasiment les mêmes travaux, avec des statuts différents. Et le grand désir de la direction, en fin de compte, hein, c'est d'uniformiser tout ça, et puis entre guillemets, hein, si je peux donner l'expression, se débarrasser des gens au statut. Donc, en faisant tout pour les pousser à prendre leur retraite, de manière à ce qu'il y ait des réembauches de personnel sans statut, simplement CDI. Alors, on est dans cette ambiguïté. Vous savez, c'est assez vicieux, le système hein, de la SNCF. Hein. On veut la privatisation tout en ce que l'État garde la mainmise dessus. Et le but, parce qu'il y a eu une première vague, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire, mais on s'en souvient plus, en 2005, il y a eu la réforme Fillon, d'ailleurs, sur les retraites, où déjà la SNCF avait poussé à la porte, parce que j'en ai fait partie, des gens qui avaient 55 ans, mais qui voulaient, moi, je ne voulais pas spécialement partir en retraite, mais la SNCF pouvait vous obliger à prendre la retraite, alors qu'il n'était pas à taux plein, parce que j'étais pas à taux plein quand je suis parti, pour diminuer les effectifs, déjà pour commencer à diminuer les effectifs des gens au statut. Alors derrière ça, vous voyez, c'est assez vicieux le système. Et alors que d'un autre côté, la SNCF manque de mécaniciens. Hein, tout le monde le sait, les conducteurs, et on en manque. Alors, vous voyez, mais on voudrait bien en rembaucher, mais pas au statut, vous comprenez ? Alors,
c'est moins attractif, oui.
Voilà. Alors, on joue un peu là-dessus. Alors, forcément, les syndicats peuvent pas refuser. Hein. Ils se trouvent devant une revendication qui a été acceptée par la direction. Mais derrière...
Ben, c'est un beau cadeau pour les syndicats, hein ? Ouais.
Ah ben, oui et non. Bien sûr, en premier lieu, c'est un cadeau. Mais après, dites-vous bien que toutes les embauches qui vont être faites sont faites sans statut. Et n'oublions pas quand même...
Est-ce que les plus jeunes salariés qui ne sont pas au statut sont véritablement syndiqués?
Je ne sais plus au juste. Il y en a, oui, il y en a, je pense. Il faut bien une défense, il faut bien quand même. Mais, si vous voulez, bon, n'oublions pas quand même que plus ça va aller, plus il va y avoir des privatisations. Les trains TER, par exemple, moi je suis sur le sud-ouest, il y a des appels d'offres pour les régions, on ne sait pas si c'est la SNCF qui va conserver. Donc il y a toute une phase de transport ferroviaire à statut, à exploitation privée qui se met en place. Donc si vous voulez, quand il y a la passation, si vous voulez, de toute cette activité au privé, le privé n'aime pas reprendre des gens au statut, hein, vous comprenez ? Ça les gêne. Donc on essaye déjà de dégraisser, entre guillemets, tous les gens au statut. Le fond du problème, il est là. Le fond du problème est là, c'est clair.
Donc Frédéric, pour vous, si on dit que le gouvernement a acheté les cheminots pour la paix sociale avec les Jeux Olympiques qui se précisent, ça peut faire partie de la logique du gouvernement,
oui,
non ?
Oui, après. Ouais. Oui, bien sûr. Mais pour le gouvernement, lui, joue bien là-dessus. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème puisque
il y a ces préavis de grève qui ont été déposés.
Voilà. Mais bon, avec un argument comme ça, la grève elle est obligée d'être suspendue. Hein. C'est pas possible. Personne n'accepterait de voir une grève avec une obtention des demandes.
Hein. Ça va être compliqué maintenant de faire de la grève.
Hein. Là-dessus, la direction entre guillemets a bien joué. Hein. C'est une victoire sans en être une. Hein. Mais derrière, en filigrane, faut pas oublier ça.
J'ai compris.
Hein.
Mais il y a cette idée effectivement de les gens au statut finalement on les met le plus rapidement possible à la porte quoi.
On les met à la retraite, alors après on va charger le budget des retraites, vous comprenez, on va dire les retraites nous coûtent cher. Mais bon, d'un autre côté c'est pratique pour se séparer d'un personnel qui n'est pas malléable entre guillemets, hein, qui n'est pas là. Et avec en fond derrière la privatisation de différentes lignes, hein, ça commence déjà, mais voilà. Hein.
Frédéric, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, surtout de pouvoir vous expliquer des choses. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, c'est assez complexe, et puis même pour les auditeurs, c'est vrai, mais derrière tout ça, il y a une politique de fond.
Il y a aussi cette logique-là, oui, c'était important aussi de la rappeler. Merci beaucoup Frédéric, et continuez d'être fidèle, bien sûr, à Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Olivier nous appelle aussi au 0826 300 de Beaucaire. Bonjour Olivier.
Bonjour Sud Radio.
Et bienvenue sur Sud Radio, en forme.
Oui, très en forme.
Vous voulez réagir, vous, à cette histoire de fouilles archéologiques préventives?
Oui, je donne... raison à Rachida Dati, je travaille dans le BTP.
Elle propose de limiter un peu, justement, d'encadrer davantage, de limiter peut-être aussi dans le temps ces fouilles.
Mais je vais vous donner un exemple. Beaucaire fait avoir un terrain pour faire des maisons pour les seniors.
Oui.
Et en 2022, ils doivent attaquer des travaux, on fait des fouilles et on trouve des fondations. Donc le chantier a arrêté, il va redémarrer là en 2024. C'est-à-dire il a été arrêté presque 2 ans parce qu'on a trouvé des genres de fondations qu'on pensait que c'était romain. Donc on a
et c'était pas le cas ?
Non, c'est des vieilles bâtisses. C'était peut-être romain, mais disons que ce sont des constructions normales de maisons, quoi. Et on a arrêté un chantier pendant 2 ans pour ça.
Donc, pour vous, ces chantiers-là doivent avoir la priorité sur tout un pan de l'histoire.
On n'a pas besoin de faire venir des. Alors, si on trouve des fresques et des trucs, je comprends. Mais quand on ne trouve rien, que ce sont des fondations normales. On doit pas arrêter un chantier pendant 2 ans, c'est inadmissible. Vous savez, j'ai vu à Beaucaire, quand j'étais plus jeune, une compagnie qui a installé le tout à l'égout à l'époque, ils font une tranchée, d'un coup ça s'effondre, et ils voient un souterrain tout bâti en pierre de taille, un couloir en dessous, et le gars il descend une lampe, et il voit un souterrain qui part a priori de la mairie, et qui part direction du château. Il a appelé les gars, vite, mettez-moi une tôle, couvrez-moi ça de béton. Si les monuments historiques qui viennent, on nous arrête le chantier. Et c'est ce qui se passe très souvent.
C'est dingue, ouais.
Ben oui, parce que...
On cache ça, quoi.
Les gros chantiers, moi, que je faisais, quand je fais des ponts, des trucs, non, on peut pas faire on fait pas ce qu'on veut. Mais les petites entreprises, elles disent rien.
Et vous êtes d'accord avec ça?
Avec mais cette méthode, oui.
Alors, vous savez, quand c'est important, les gens, ils espèrent trouver quelque chose, dire, tiens, ça peut rapporter quelque chose, on le dit. Mais quand ce sont des petits trucs, mais il y en a qui cachent. Par exemple, vous avez un camping dans l'Ardèche, il a une grotte préhistorique. Il n'a jamais déclaré, il a mis une porte devant et il s'en sert de dépôt.
Et tout ça parce que, selon vous, Olivier, la réglementation, elle est trop stricte, elle est trop dure et que ça prend trop de temps ensuite.
Ils se donnent une priorité, même sur des terrains privés, hein, et ils se donnent une priorité et ils arrêtent tout. C'est-à-dire que le gars, il a dit, moi, si je déclare la grotte, on me ferme mon camping, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Je vis du camping l'été. Si on me le ferme, je fais quoi? Donc, on ne dit pas. On cache. Toutes les petites entreprises... Moi, j'ai vu sur Avignon, on a fait des trucs. On a des découvertes, des trucs qui s'effondrent quand on creuse. On trouve un souterrain. On ne dit rien. On ne dit rien. On ferme. Il n'y a que les gros chantiers publics où on est obligé de faire des études archéologiques. Et il vient tellement de monde qu'on ne peut pas cacher. Mais c'est ennuyeux parce que souvent, ça n'aboutit sur rien. Sur 1000 chantiers, il va y en avoir un peut-être, qu'il va y avoir des choses intéressantes.
Et vous n'avez pas peur qu'on vous retombe dessus derrière ?
Bah ben, ils ne disent pas. Hein. En principe, ça, quand on le voit, on ne dit rien. On est entre nous, on regarde. Parce qu'on regarde quand même. Hein. Parce que si c'est important, on le dit. Mais vous savez, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans la réfection d'une banque. Ouais. C'était un ancien relais de papier. Et on a décaissé la chambre forte pour la refaire.
Et vous avez trouvé un trésor.
Non, alors j'ai trouvé une pierre taillée. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était une tombe à la base.
Ouais.
Elle était posée au mortier. Devant, il y avait des assiettes en terre cuite, des vases. Ils étaient cassés. On les a cassés quand on a creusé. Hein. On l'a pas fait exprès. Et quand le patron est arrivé, je lui ai dit, regardez, c'est posé au mortier. On dirait, ça n'avait aucun sens par rapport à la construction. C'était des voûtes. C'était un carré avec des voûtes et c'était en diagonale. Je lui ai dit, on dirait une tombe. Il m'a dit, tu touches à rien. On va s'en servir de niveau. On va partir le béton à ce niveau-là. On a couvert tout de béton. Mon patron n'a pas voulu voir ce qu'il y avait dessous.
Et ça vous a choqué ou pas, ça ?
Oui, moi, à l'époque, ça m'a choqué. J'ai dit, quand on m'a dit que c'était le relais des Templiers, j'ai dit, il y a peut-être un trésor, il y a peut-être quelque chose.
Oui.
Bon, il n'a pas voulu, on a bétonné, on a mis 50 cm de béton dessus. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des choses choquantes, mais il y a des choses, quand on arrête des chantiers pour rien, c'est énervant, quoi. C'est de l'argent. Vous savez, quand on a une entreprise et qu'on attaque des travaux, et puis on va mettre tout l'effectif sur ce chantier, puis on nous dit, ah ben c'est arrêté, vous ne travaillez pas pendant un mois, deux mois, un an, on fait quoi des gens? C'est grave, hein. Surtout des villes comme Paris, des trucs comme ça, je comprends qu'ils doivent trouver... Toutes ces anciennes villes, ces vieilles villes, Beaucaire, c'est une vieille ville, il y a des souterrains de partout, mais on ne pourrait pas arrêter toutes les entreprises pour ça, quoi. Il y en a tellement. Vous savez, les principaux monuments, ils sont là, on les a sortis. Ce qui a été rasé à l'époque...
Après, il peut y avoir encore des découvertes incroyables.
Il peut y avoir des découvertes, c'est clair qu'il peut y en avoir. Mais souvent, ça a été rasé parce que c'est enterré. Donc, ce sont des trucs qui ont été rasés complètement. Les gens ont pillé les pierres, les machins, ils ont reconstruit ailleurs. Oui, et c'est des vestiges. Il ne reste rien.
On avait peut-être un peu moins
d'intéressant.
Précaution à l'époque.
Pour les archéologues, pour les archéologues, c'est sûr que c'est intéressant. Mais pour le grand public, vous savez, voir 30 bouts de pierre alignés... Ça sert à rien, quoi. Beaucaire, ils ont voulu faire des visites puisque le chantier était arrêté, donc ils ont dit ils ont pris des photos, des trucs. Voilà, c'est des murs qui font 40 cm de haut parce que tout a été rasé sur le dessus, c'est les fondations, il reste que ça. Donc
voilà. Olivier, donc Carnac, c'est pas votre truc, quoi.
Non, mais il y a des trucs si. Non, mais je ne vais pas aller jusque-là.
Je vous taquine.
Mais il y a des constructions de maisons, des ruines de maisons. Il y en a des milliers et des milliers, quoi, en France. Et arrêter un chantier deux ans Parce qu'il n'y a pas que l'archéologie, hein. Il y a les fleurs, il y a les animaux, on arrête pour tout, hein. S'il suffit qu'il y ait une grenouille un peu spéciale qui passe, ça change. On ferme le chantier, on l'ouvre pas.
Bah, c'est un sujet en tout cas très concret, hein. Ça et c'était important de vous avoir, Olivier. Hein. Je rappelle, vous travaillez dans le BTP pour avoir votre expérience, votre témoignage à ce sujet. Olivier, merci.
Oui.
Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. L'impression, j'entendais les coups de marteau. J'ai l'impression que le boulot a déjà commencé, hein, pour vous. Hein.
Oui,
bon courage à vous, Olivier. Allez, avant de laisser une petite page de pub, juste Maxime Troulon, on est toujours avec vous. Oui. Un petit mot, on parlait de Rachida Dati pour ses fouilles archéologiques, qui veut les encadrer. On parle aussi au gouvernement de Sabrina Agresti-Roubache.
Oui, avec cette phrase qui a fait polémique. Vous pouvez fouiller dans le téléphone ou dans la chambre de vos enfants. La secrétaire d'État chargée de la citoyenneté a créé cette polémique, hein, hier chez nos confrères de France 2. Parents, l'autorité, c'est vous, a-t-elle lancé avant de dire quand même que chacun avait le droit à son jardin secret. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que vous trouvez ça choquant? Vous nous le dites, 0826 300 300.
Bah oui, vous nous appelez, on le rappelle, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Toulouse 101.8 et en DAB+.
Sud Radio.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Si tu voyais comme c'est beau.
J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Et oui, parlons vrai sur Sud Radio avec vous, 0826 300 300. On parlait de fouilles archéologiques juste avant la pub. Maintenant, on va parler peut-être d'une autre, un autre type de fouille. Est-ce que on va fouiller dans le portable, dans les portables de nos enfants? Maxime Troulot, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Parce que effectivement, c'est ce qui a laissé entendre la ministre Agresti-Roubache, c'est ça?
Bah oui, on parle de la délinquance des mineurs depuis quelques jours. Je rappelle cette phrase. Vous pouvez fouiller dans le téléphone ou dans la chambre de vos enfants. enfants. Elle s'adressait directement d'ailleurs aux parents, elle-même d'ailleurs en tant que mère de famille, expliquer, fouiller d'ailleurs, voire sanctionner si possible ses enfants. Parents, l'autorité, c'est vous, a-t-elle lancé hier?
Allez, pour en parler, on est avec Cynthia au 0826 300 300 de Narbonne. Bonjour Cynthia.
Bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous avez une fille, c'est Merci. Ça Cynthia?
J'en ai trois, mais j'en ai une qui est insupportable, oui.
D'accord. Qui a quel âge?
Elle a 10 ans et demi.
10 ans et demi?
Oui.
C'est ça. Est-ce que vous regardez, vous vérifiez son portable? Est-ce que vous avez déjà fouillé dedans?
Ouais. Oui, alors c'est pas, j'appelle pas ça fouiller, comme un accord, c'est-à-dire
que ce soit
sa chambre. Non, c'est jamais. Je le fais avec elle, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a mis en place quand je lui ai dit qu'elle allait avoir un téléphone, parce qu'elle se déplace pour ses compétitions sportives ou pour ses voyages.
D'accord.
Je lui ai expliqué qu'un téléphone c'était un moyen de communication pour des moments importants de la vie, c'est-à-dire si elle se sent pas bien ou s'il y a un problème. Mmh. Donc il faut que ce soit quelque chose auquel je puisse aussi avoir accès.
Alors, ensuite, qu'est-ce que vous allez... Oui, allez-y, et après, j'aimerais savoir ce que vous regardez.
D'accord.
Voilà.
Sur ce téléphone, j'ai installé, par contre, ce qu'on appelle Family Link. C'est un programme qui permet, par contre, de contrôler le téléphone. C'est-à-dire, elle ne peut pas télécharger des applications sans mon autorisation. Voilà.
Par les réseaux sociaux, notamment?
Les réseaux sociaux, les recherches, que ce soit sur Internet ou le temps passé sur le téléphone.
Ok. Donc il y a déjà cette application-là pour contrôler tout ça. Et vous avez un regard supplémentaire sur quoi alors, Cynthia?
Alors c'est-à-dire que ce soit sa chambre ou son téléphone, je veux qu'elle puisse me faire confiance et qu'elle puisse me montrer avec qui elle converse ou ce qu'elle fait dans sa chambre. C'est-à-dire qu'on ne cache pas, il n'y a pas des cachettes ou ce genre de choses. Par contre, elle a des petits coins secrets, c'est-à-dire elle a un cahier secret, donc elle peut écrire ce qu'elle veut. Ça ne me regarde pas, c'est à elle c'est son petit jardin à elle secret, c'est normal. Mais je veux qu'elle puisse me faire confiance parce que la confiance c'est mutuel. Moi je lui fais confiance, elle me fait confiance. On ne doit pas se cacher des choses parce que quand on commence à se cacher des choses où on n'a rien à faire, c'est que c'est là où commencent les problèmes, je pense. Mmh.
Cynthia, merci beaucoup pour votre témoignage sur Sud Radio.
Je
vous souhaite une très belle journée, Cynthia. Très belle journée à vous. Allez, on change de sujet. Pour terminer, un débat, tenez, pour ou contre le couvre-feu pour les mineurs, pour prévenir la violence des mineurs. On en parle, débat avec Bruno de Béziers et Olivier de Bordeaux. Bonjour Bruno, on commence avec vous.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes à Béziers qui a mis en place depuis lundi soir un couvre-feu pour les mineurs, les moins de 13 ans, dans certains quartiers. Vous en pensez quoi vous Bruno?
Je pense que sur le principe qu'il y ait un couvre-feu pour les mineurs, je suis totalement d'accord. Un mineur de 13 ans n'a rien à faire dans les rues tout seul le soir, passer une certaine heure. Je pense qu'il doit être au lit ou avec sa famille. Maintenant, je suis sceptique sur le résultat. Qu'est-ce qu'on va faire des
qu'est-ce
mineurs
que ça va changer,
éventuels
quoi.
Oui, voilà, parce que d'une part, qu'est-ce qu'on va faire des mineurs qu'on va attraper, on va les remettre aux parents et après, voilà, c'est toujours ça. Et d'autre part, moi je pense que quelqu'un qui a des mauvaises intentions, des intentions délictueuses ou autres, il va quand même les commettre. Avant on disait l'école est un sanctuaire, les enfants sont tranquilles à l'école. Aujourd'hui on voit que ni dans l'école ou aux abords de l'école les enfants sont tranquilles. Dans les complexes sportifs aux abords c'est pareil. Donc quelqu'un qui a des comptes à régler, parce qu'il y a beaucoup de règlements de comptes de gamins aujourd'hui, quelqu'un qui a des comptes à régler, qui les règle à minuit ou à 5h de l'après-midi, c'est pareil.
Ça peut être aussi les petites mains dans les trafics de drogue qui peuvent être là aussi jusque tard.
Oui, ils sont là toute la journée.
Ouais. Bruno, on accueille Olivier pour en débattre, pour en parler. Bonjour Olivier.
Bonjour, merci de m'accueillir.
C'est avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit sur Sud Radio. Ce couvre-feu pour les mineurs, vous en pensez quoi, vous?
En fait, j'ai entendu Monsieur Ménard l'annoncer.
Ah, ouais.
Non, j'ai entendu Bruno aussi, je peux entendre
son avis propre. Oui.
Je peux entendre son avis, oui, puisque je peux comprendre un certain ras-le-bol sur un certain nombre de sujets.
D'accord.
Après, j'ai surtout entendu Monsieur Ménard qui expliquait qu'en fait, il avait perdu une première fois sur cet arrêté, qui avait été déclaré illégal.
et qu'il allait recommencer dans la foulée. Donc déjà,
c'est pas vraiment le même couvre-feu, si je puis me permettre, Olivier, parce que là on est sur...
Il le dit lui-même, hein, moi je cite Ménard, hein, je cite en disant oui c'est vrai, la loi ne m'a pas donné raison, mais je vais recommencer, je lâche pas. Donc, bon,
parce qu'on est passé d'une généralisation à la ville, à des quartiers, et ça la loi lui permet, s'il y a des soucis avérés.
Je vais y venir quand même, mais sur le fond quand même... agir dans l'illégalité pour imposer la légalité, moi en tant que parent j'ai un peu de mal, on est plutôt donneur d'exemple, mais bon, c'était pour la boutade, mais qui n'en est pas vraiment une. Sur les quartiers particuliers ciblés, moi ça me dérange beaucoup en fait, parce que ça sous-entend que la violence ne viendrait que de là, et que alors d'un côté on ghettoïse des gens, hein, ça c'est une histoire, c'est notre histoire d'immigration, et de l'autre côté après on va aller mettre un couvre-feu dans les quartiers, et puis de toute façon, je pense que non seulement c'est empreint de racisme, mais en plus c'est inefficace. Parce que je pense que le problème, il n'est pas le problème de la délinquance, et ça a toujours été le cas, c'est d'avoir un problème social.
Olivier, voilà. On va et faire si réagir on... là-dessus. Bruno, je suis désolé, on arrive à la fin de cette demi-heure. On a compris ce que vous voulez dire. Bruno, est-ce qu'il y a une forme de stigmatisation dans ces mesures de couvre-feu, voire une part de racisme? C'est ce que vous pouvez dire à l'instant, Olivier.
Ouais. Là où je peux rejoindre Olivier, c'est qu'effectivement des familles ont été ghettoïsées, mais ça c'était dans les années 70-80, hein, et je sache que c'était pas la droite qui était au pouvoir dans les années 80. Maintenant, de dire qu'il n'y a que des Arabes et des Noirs dans les quartiers difficiles, parce que c'est ça en fait que Olivier veut dire, je trouve que c'est un petit peu raccourci. Je pense pas qu'il y ait une stigmatisation, je pense qu'il y a un ras-le-bol général, comme il l'a dit lui aussi, et dans les quartiers difficiles de Béziers, majoritairement, ils ont aussi voté pour Robert Ménard. Donc le résultat est là. Maintenant, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt pour satisfaire son électorat Robert Ménard propose cette mesure cosmétique.
Bruno, Olivier, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On aura l'occasion, de toute façon, d'y revenir sur ce débat-là qui est très clairement d'actualité. Ça continuera de l'être. Merci beaucoup, Olivier et Bruno. Très belle journée à vous. Maxime Troulot, on vous retrouve. Oui. Le débat à suivre, la confrontation. On parle de nos fiches de paye, c'est ça?
Oui, de nos bulletins de salaire, puisque ce matin, Bruno Le Maire, en Conseil des ministres, va présenter un plan pour notamment simplifier notre fiche de paye. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que nos fiches de paix sont-elles trop compliquées aujourd'hui à lire? Eh bien, on va en parler dans un instant avec Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, et François Auméril, président de la CFE-CGC, la Confédération générale des cadres.
Et vous aussi, si vous voulez réagir, 0826-300-300, on vous accueille sur ce débat avec grand plaisir. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio au bagne.
95.1.
Sud Radio.
Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two. Trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away. When we first met, I never thought.
that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning.
Alarme en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verissure présente.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, parlons vrai avec cette question. Les fiches de paix sont-elles trop compliquées? C'est en tout cas l'avis du gouvernement. Il souhaite réduire le nombre de lignes sur le bulletin de salaire pour faire plus simple. 55 lignes, une quinzaine de lignes, c'est l'objectif affiché. Projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres. Pour quel résultat? Est-ce une vraie simplification pour les patrons, pour les salariés? On en débat avec nos deux invités. Benoît Serre, bonjour.
Bonjour.
Vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, également présent avec nous, François Omeril. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, président de la CFE-CGC. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio, avec éventuellement nos auditeurs au 0826-300-300. Est-ce qu'elle était vraiment nécessaire, cette simplification? On va commencer par cela, Benoît Serre.
Bah, de toute façon, rendre le bulletin de paye plus complexe qu'il n'était, c'était impossible. Donc la seule voie possible, c'était la simplification. Vous l'avez rappelé, il y avait 55 lignes.
Pour les DRH aussi?
Non, bah, vous savez, les DRH, ils les rédigent pas. C'est un système qui les produit. Et dans les petites entreprises, en revanche, c'est vrai que le simplifier, c'est sans doute quelque chose de positif. Mais dans le projet de loi qui est présenté ce matin au Conseil des ministres, il est quand même prévu que l'entreprise doit conserver la capacité à montrer, entre guillemets, les 55 lignes à celui qui les demanderait. Ça signifie que si facialement, lorsqu'on recevra demain, si ça fonctionne, le bulletin de paye, on n'aura plus que 15 ou 20 ou 25 lignes, je ne sais pas très bien. Non, mais ça dépend en fait, parce que dire 15 lignes, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, parce que ça dépend de votre statut, ça dépend si vous avez des aides, pas des aides, ouais, congés, pas congés, enfin il y a tout un tas de trucs. Non, disons qu'on va arriver à 20, donc ça c'est plutôt pas mal en lecture directe.
Pour le salarié.
Mais pour le salarié, donc ça c'est plutôt un point positif. Le sujet, c'est que l'entreprise, il faudra sans doute regarder ça, notamment la TPE, devra maintenir un système qui lui permet de produire l'intégralité des lignes qui sont aujourd'hui sur le bulletin de paye si le salarié le demande. Alors il y a de fortes chances que le salarié le demande jamais, on est d'accord. Peut-être que cette réforme, elle a un intérêt, non pas de simplification, mais de clarification. Parce que c'est vrai que quand vous regardez aujourd'hui votre bulletin de paye, comprendre qui paye quoi, comment, sur quoi, avec les taux, c'était extrêmement compliqué. Donc, mais il ne faut pas perdre de vue que la complexification du bulletin de paye, il ne vient pas du bulletin de paye lui-même. Il vient de la complexité absolument incroyable du modèle de financement, notre modèle social, en fonction des statuts, si vous êtes cadre, pas cadre, tranche machin, tranche ceci, tranche cela. Voilà, c'est un peu ça, quoi.
François Omeril, indispensable ou pas cette simplification du bulletin de salaire?
Alors moi, c'est pas du tout mon avis. Hein. Et pour tout vous dire, moi, je juge de la nécessité ou pas et de l'intention du gouvernement. Je vais peut-être revenir sur l'intention. Son intention, forcément, elle est mauvaise. Alors vous allez me dire, mais vous faites un procès d'intention. La réponse est oui, je fais un procès d'intention.
Alors, bah vous assumez, pourquoi?
Nous, on est nourris par l'expérience. Et à chaque fois que un gouvernement, depuis une quinzaine d'années, est venu vers nous en disant, nous allons simplifier les choses, à chaque fois, il les a rendues plus complexes pour les individus.
Alors, les fiches de paye, ça a déjà été le cas, 2023,
tout à fait.
Avec une application 1er janvier 2024, et puis 2018, je crois, auparavant.
En 2018. Alors, maintenant, sur... sur le cas concret, on va dire, de la fiche de paye.
Alors déjà, sur les réformes précédentes, les simplifications précédentes, vous avez l'impression que le salarié s'est fait avoir?
À chaque fois qu'on a fait une soi-disant simplification, en fait, on a rendu l'accès à la compréhension de la fiche de paye, plus complexe finalement, et vous venez de le dire. Il faudra en faire la demande individuelle, j'imagine qu'il faudra faire la demande par informatique, on attendra la réponse. Ça va devenir une usine à gaz, en fait, d'accéder à sa fiche de paye. Et moi, je crois que c'est l'intention. Je crois que c'est l'intention, finalement, de rendre toujours plus difficile la vie des gens à travers ces opérations de simplification factice. Maintenant, je reviens à la fiche de paye. En fait, c'est pas vrai. La fiche de paye, elle est très simple. Il y a 55 lignes. Alors ça, c'est toujours la même histoire. 55, c'est trop. Ce serait mieux d'en avoir 25, etc. Mais vous savez, je vais vous dire, il y a plus de 600 muscles dans le corps. Et en fait, on est gouverné par des gens qui pensent que 600 muscles, c'est trop, qu'il faut en enlever 100 et que ce sera plus simple s'il y en a un contron 500. Ben, ça n'a pas de sens, ce que je viens de vous dire. Eh bien, en fait, les intentions du gouvernement n'ont aucun sens. Parce que les gens sont intelligents. Quand on conduit un camion, quand on construit des hélicoptères ou des sous-marins, quand on est directeur d'agence dans une banque ou au guichet, bah on est capable de lire sa fiche de paye et de prendre l'habitude de voir quels sont les pourcentages et où vont les cotisations et à quoi ça sert. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Finalement, c'est linéaire pour le coup. Et pour finir, ce sont des droits. Il est très important que les droits qu'il y a derrière les cotisations qu'on paye sur nos salaires, eh bien que ces droits soient accessibles, soient lisibles. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Et l'intention du gouvernement est de rendre illisible l'accès aux droits.
Elle cache quoi cette opacité ? Allons au bout des choses. Selon vous ?
Ben, on commence par enlever la ligne et puis après, au final, on dit, petit à petit, on attaque les droits. Moi, c'est très exactement ce que je pense. Je vais prendre un exemple. Quand Emmanuel Macron a supprimé la cotisation salariée à l'assurance chômage, derrière, il y avait un projet politique. Qu'est-ce qu'il a fait ? On avait 2,4% de cotisation salariée à l'assurance chômage. Il l'a remplacé par une augmentation de la CSG de 1,85%. Et il a dit aux gens, je vous fais gagner du pouvoir d'achat parce que vous aviez 2,4%. On passe à 1,85. Vous voyez, c'est simple. Mais derrière, l'intention politique, c'est quoi ? Eh bien, on est en train de le vivre actuellement. C'est que l'État met la main sur l'assurance chômage en disant, finalement, maintenant, c'est nous qui payons, puisque la CSG, c'est nous, l'État. Avant, c'était vous qui payez. C'était un peu plus compliqué pour nous. Maintenant qu'on a transféré la cotisation sur la CSG, c'est nous les patrons et on va reprendre l'assurance chômage. On va durcir les conditions d'indemnisation, etc. Derrière toute opération de simplification, il y a un projet politique.
Benoît Serre, projet politique, est-ce que vous faites aussi ce procès d'intention au gouvernement ou pas ?
Non, je ne fais pas de procès d'intention au gouvernement. Moi, je regarde quel impact ça a dans... Parce que j'ai pas dans la position de l'Association nationale des DRH, elle a pas de position politique. Moi, je défends un métier, donc c'est un peu différent. Nos statuts sont différents avec François Omeril, même si on se rencontre beaucoup avec les partenaires sociaux.
C'est intéressant justement de vous entendre tous les deux.
Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye de voir quel impact ça a sur les salariés. Sur un élément que je sais que vous partagez, qui est le sentiment de confiance, parce que lorsque les gens ne comprennent pas leur bulletin de paye, ils se demandent ce qu'il y a dedans. Et vous savez,
ils
ça a été un sujet.
Oui, ils sont à voir ou pas.
Oui, ouais, ou alors ça. Est-ce que on n'est pas en train d'augmenter des taux sans qu'ils le voient, des choses comme ça. Il y a un peu cette ambiance-là. Moi, je me souviens, j'étais déjà DRH, je suis très âgé, donc j'étais déjà DRH quand il y a eu la fameuse retenue à la source. Et je me souviens que les gens étaient très très inquiets en fait. Ils avaient peur que l'entreprise puisse connaître leur patrimoine. C'est pas du tout le cas, hein, parce qu'en fait on nous transmet un taux, on applique un taux. Mais c'est vrai qu'il y avait cette forme d'inquiétude. Et donc c'est pour ça que si simplification il y a, alors il faut vraiment être très pédagogique pour expliquer que c'est pas pour cacher des choses. Ça c'est un premier point. Le second point. C'est que il faut s'assurer que cette simplification soit réelle. Comme je l'évoquais tout à l'heure, elle est certainement réelle en lecture directe, même si je partage le point de François Omeril, si on prend un peu de temps, on peut expliquer aux gens comment ça se construit. Il faudrait pas qu'elle ce soit une fausse simplification faciale, comme je l'évoquais tout à l'heure, et que finalement, pour les entreprises, notamment les petites, ça reste une complexité folle. Parce que j'ai compris que ce projet sur le bulletin de paie, il s'inscrit dans un mouvement général de simplification.
Notamment pour les PME et les TPE.
Et ça, c'est le plus important. Aussi. Parce que je peux vous assurer, parce que vous savez que la NRH, c'est 6500 DRH adhérents. Donc on a de toutes les tailles. On a des petits, des grands, des moyens. Oui. Les petites entreprises, c'est épouvantable. C'est-à-dire la gestion administrative auxquelles ils sont soumises est vraiment très complexe. Donc je pense que ça a plus d'urgence, entre guillemets. D'autant plus, comme j'évoquais tout à l'heure, comme on doit toujours produire les éléments, ça veut dire qu'on doit maintenir les systèmes.
Ça sera toujours aussi complexe
Ce sera potentiellement toujours aussi complexe, même si facialement ou de manière en lecture directe, ça ne l'est plus. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets de simplification à aborder, de manière à laisser notamment les PME-TPE ne pas être envahies, mais je pense aussi aux professions libérales. Hein. Sur un médecin, on estime que c'est 7 heures de documents administratifs par semaine. C'est considérable. C'est-à-dire que c'est autant d'heures qui sont pas... Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de complexité de la relation à l'administration. Alors j'ai vu que le Premier ministre avait annoncé que via l'IA ou via tout un tas de sujets, on va pouvoir simplifier, on va faire le fameux test, le test PME, c'est-à-dire que quand on prendra un texte de loi, quel qu'il soit, ou un règlement, on s'assurera de voir comment ça marche, on fera des tests de grandeur nature. Mais tout ça, honnêtement... On l'a déjà entendu. Donc moi, je ne fais pas de procès d'intention, j'attends l'action.
Oui, on verra cela. On reparlera aussi dans un instant des autres points de simplification évoqués. Juste avant, un petit mot avec François Omeril sur cette nécessité aussi d'établir un rapport de confiance. Est-ce que ça va peut-être renforcer cette confiance, cet échange qu'on peut avoir entre l'employeur et puis le salarié?
Non, pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Il y a un problème de confiance aujourd'hui dans notre pays. Hein, on ne fait pas suffisamment confiance aux gens et on ne fait pas suffisamment confiance à leur intelligence pour comprendre les situations. Donc là, on a l'exemple typique. On dit aux gens, la fiche de paye, c'est compliqué, on va vous la simplifier. Non, c'est pas vrai. Vous regardez une revue technique auto de garagiste, où ça vous paraît hyper complexe. Hein, et pourtant, pour le garagiste qui va réparer votre moteur, bah en fait, c'est simple parce que c'est son métier. Donc en fait, c'est pas vrai. La fiche de paye, c'est pas compliqué dans le privé. Par contre, je vous accorde que dans le public, pour le coup, une fiche de paye qui est très simple, il y a très peu de lignes dans une fiche de paye du public, c'est totalement incompréhensible. Donc j'attire l'attention de tout le monde sur ce sujet-là et j'invite tout le monde à comparer la fiche de paye dans le public et la fiche de paye dans le privé. Et là, vous allez voir, c'est édifiant. Donc si l'objectif de Bruno Le Maire, c'est de rendre la fiche de paye du privé aussi illisible et incompréhensible que celle du public, alors là, effectivement, chapeau l'artiste. Il va atteindre son objectif. Une autre chose qu'il faut savoir, parce que je suis assez d'accord sur le fait que, s'agissant des petites entreprises, il y a une forme d'injustice qui est liée au fait que les petites entreprises sont confrontées à des formalités administratives, oui, qui sont quasiment du même nombre que les très grandes. Et moi, je pense, effectivement, comme vous probablement, que dans les petites boîtes, il vaut mieux que le patron se consacre à développer ses produits sur les marchés, à chercher des clients, plutôt que de s'occuper de remplir les papiers. Là-dessus, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'établissement de la fiche de paye, partout, elle est sous-traitée. Il y a des boîtes aujourd'hui dont c'est la spécialité de faire la fiche de paye. Et de toute façon, toutes les boîtes, quelle que soit leur taille, c'est pas le comptable qui fait la fiche de paye avec sa plume. Non, c'est pas vrai. C'est une prestation qui est vendue. Donc,
c'est externalisé.
Il y a des gens dont c'est le métier. Ce qui prend du temps, en fait, c'est le déclaratif. C'est par exemple les primes, les heures supplémentaires, etc. Or ça, la simplification de l'écriture de la fiche de paye, ça ne va pas l'enlever. Quand quelqu'un il a fait le poste de nuit, faudra quand même bien le signifier. Et c'est ça qui prend du temps. Donc là encore, on nous dupe.
Et oui, Benoît Serre partage votre avis sur ce sujet-là. Vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, Benoît Serre, et puis François Omeril, je le rappelle, président de la CFE-CGC. Quel autre type de simplification? À quoi doit-on s'attendre? On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Médoc.
103.2.
Sud Radio.
Je suis le soleil et tu es l'ombre. C'est vrai qu'on ne se ressemble pas. Mes magies blanches et mes magies sombres. Sinon les romans n'existent pas.
mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. C'est la formule magique de l'amour magnétique. T'es les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. Du miel, du sel en bombe, le feu qui brûle en moi. Mon cœur au bord du monde, ouvert en deux pour toi. À l'amour, la vie, la tombe, jamais on se quittera. Mon cœur au bord du monde, ouvert en deux pour toi.
Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Parlons vrai sur Sud Radio, 9h48, on y est, le choc de simplification promis par Bruno Le Maire, qui parle de révolution. On en parle avec nos deux invités, Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, et puis François Omril, qui est président de la CFE-CGC. Avant cela, on a un auditeur au standard au 0826-300-300 qui souhaite réagir, c'est Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, vous voulez réagir à cette simplification promise par Bruno Le Maire, notamment sur les bulletins de salaire.
Bah pour moi, c'est simple, c'est un effet d'annonce. Quoi. Je ne vois pas la simplification qu'il va apporter aux chefs d'entreprise, sachant que nous, entreprise et patron, on passe la majorité par des cabinets externes pour effectuer nos payes ou des prestataires sur les petites structures. Parce que malheureusement, on n'a pas le choix, sinon on a des redressements, on a des contrôles. Et on voit qu'on n'a pas la qualification pour exercer au niveau des payes, donc on passe tous par des prestataires externes. Et là, il nous simplifie que dalle, en fait. Sincèrement, c'est un effet d'annonce, c'est dire ça ne nous facilite pas, nous, patrons, la vie, pas du tout.
Vous partagez ce que disait juste avant la pub François Omril. Merci Sylvain, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Bonne journée à vous, Benoît Serre. Réaction par rapport
non, mais je comprends,
à ce que disait, vous comprenez ce que
bien
disait Sylvain.
Bien que François Omril, c'est que c'est un projet de simplification qui touche le salarié. Pourquoi pas ? Mais je comprends très bien la réaction de Sylvain, hein, c'est ça, chef d'entreprise.
Oui, tout à fait.
Parce que lui, comme chef d'entreprise, ça va pas changer sa vie. La petite chose, c'est comme effectivement beaucoup sous-traitent le sujet, il va falloir adapter un certain nombre de logiciels et que ça, c'est pas gratuit. Donc, c'est ce qu'a d'ailleurs dit, je crois, le président de la CPME récemment. Il y a quand même un coût pour les TPE-PME parce qu'il va falloir modifier. Donc, cette simplification commence par un coût. Mais elle a un intérêt pour le salarié. On n'est pas complètement d'accord avec François Omril là-dessus, mais elle a un intérêt pour le salarié, mais effectivement, pour l'entreprise. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, hein, puisqu'elle doit continuer à maintenir les mêmes informations. Donc je ne pense pas que ce soit une simplification administrative pour l'entreprise.
J'aimerais vous faire réagir à une autre simplification promise par Bruno Le Maire sur la question de l'envoi à la Sécu des arrêts de travail. Ce ne sera plus le cas forcément, ce ne sera plus demandé à l'employeur puisque le salarié le fait déjà. Et puis de l'autre côté, concernant les 26 millions d'attestations chômage envoyées chaque année à France Travail, là aussi, plus besoin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la fin d'une absurdité ? François Omril, vous en pensez quoi ?
Bah, pour tout vous dire, pas grand-chose. S'agissant des opérations de simplification de Bruno Le Maire, je vais y revenir. Il nous a annoncé il y a quelques semaines la suppression de l'obligation d'afficher le certificat d'assurance sur le pare-brise. Il a dit finalement c'était absurde, etc. Ça servait à rien. Enfin bref, des arguments très contestables et très contestés. Et puis il a fini par cet argument massu qui a fait rire tout le monde, disant ça va économiser 1 million de tonnes de CO2, ça produira moins de papier.
La paperasse, ouais.
Donc ça, c'était vraiment l'argument de trop, quoi. Et c'est là que je pense qu'on a un vrai problème. C'est-à-dire que finalement, Bruno Le Maire, avec son cabinet, ses services à Bercy, il décide de tout. Ils décident de tout. Bientôt, ils décideront que les chaussures à lacets, c'est trop compliqué, qu'il faut que tout le monde ait des mocassins. Et donc, on va mettre une taxe sur les chaussures à lacets. Et on en est là aujourd'hui. Et moi, j'aime pas ces gens qui veulent me simplifier la vie alors que je n'ai rien exprimé de particulier sur ces sujets-là.
On nous prend pour des enfants, quoi, là-dessus.
Bah exactement, ouais. On nous prend pour des enfants. Donc, s'il y a un problème sur les arrêts de travail, on en discute, je crois qu'on est là pour ça, sur la transmission, pardon, des arrêts de travail, eh ben, on consulte les partenaires sociaux, on leur dit, est-ce que c'est un sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? On vous propose ça, est-ce que c'est une bonne idée? En amont, on travaille, on expertise les questions, et au final, on donne un avis. Et après, on décide. C'est pareil. Non, mais là, il y a quelqu'un, il y a un crâne d'œuf dans un bureau, le bureau 622 du troisième étage de la grande barre de Bercy, qui dit, j'ai une idée de génie. Ouais. Voilà, il a mangé deux pizzas, il a bu trois bières. Il dit, j'ai une idée de génie, on va supprimer ça, ça va simplifier. Et grâce à ça, Bruno Le Maire, il va pouvoir faire le beau dans une conférence de presse. Nous, on en a marre de ça, en fait. Voilà, je vous le dis très sincèrement, on en a ras-le-bol qu'on nous prenne pour des enfants et que des gens définitivement éloignés de nos situations de travail, ils décident de nous simplifier la vie. Et en vérité, ils ne font que nous la complexifier.
Benoît Serre, pour réagir, pour revenir à cette question des arrêts de travail, oui. Plus besoin pour les employeurs de les envoyer à la Sécu sur la fin des attestations chômage envoyées à France Travail. C'est quand même un gain de temps, une économie pour l'employeur, non ?
C'est un gain d'économie, je ne suis pas sûr. C'est un gain de paperasserie et de temps, effectivement, mais je pense que d'abord, il y a déjà des choses qui sont assez bien organisées. Ensuite, moi, j'attends avec intérêt, et je sais que c'est compliqué, hein, l'amélioration des services à distance, des services de l'État, parce que c'est une manière d'avoir des éléments de... Vous savez, on collabore déjà beaucoup à distance, en fait, avec l'État, mm-hmm. Depuis la fameuse DSN, la fameuse déclaration sociale non native, etc. On a pas mal d'éléments, ce qui d'ailleurs aujourd'hui... dans le temps a posé des difficultés parce qu'il fallait que les petites entreprises s'adaptent sur un plan technologique. Maintenant, bon, elles le sont plutôt adaptées. Mm-hmm. Donc ça, c'est un mouvement. Alors, l'économie de CO2, pour faire sourire François Omri, qui me paraît de mauvaise humeur, ça marche aussi pour bulletin de paie, parce que de 55 à 20 lignes, on n'aura plus qu'une page dans le bulletin de paie, donc on économisera une page pour les millions de salariés français. Mais je pense que ça, c'est des systèmes où on rend un peu plus fluide la contrainte administrative. Mais c'est pas là la complexité, en fait. Si vous interrogez des chefs d'entreprise ou des DRH de petites boîtes, ils vous diront c'est pas là. C'est dans les dizaines de déclarations qui doivent être faites. C'est dans les systèmes de contrôle qui tombent tous les quatre matins. C'est dans les systèmes de reporting. C'est ça, le sujet. C'est pour remplir la fameuse,
alors c'est un peu technique, temps,
la fameuse BDES, la base de données économiques et sociales. Ça, c'est ces sujets-là. Et je trouve, d'ailleurs, là où je rejoins François Omri, c'est que ce sont des vrais sujets de dialogue social. Et je pense que le dialogue social, il doit se situer à deux niveaux. Un, sur ce type de choses, avec un dialogue social, on va dire national, avec les autorités, entre les confédérations, pour essayer de voir. Et après, si je pouvais émettre un vœu, je reprends le terrain de la confiance, faire confiance aux entreprises, avec leurs représentants, sur le terrain, pour voir, et d'écouter, dans notre activité, voilà, qu'est-ce qu'on peut simplifier, qu'est-ce qu'on peut... C'est ça un petit peu le sujet, c'est que c'est souvent un peu normé par le haut, quelle que soit l'origine de la norme, on va dire. Que ce soit la norme de l'État, que ce soit la norme d'un accord national interprofessionnel, quand il est signé, parce que récemment on en a raté un. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt ça les vraies mesures de simplification qui sont attendues, que plutôt de savoir si on transmet ceci, cela. C'est tous les systèmes de contrôle qui vous tombent dessus tous les matins, le fait de devoir maintenir des informations dont tout le monde se fiche éperdument d'ailleurs, parce que ça c'est un problème. C'est qu'on remplit des tas de papiers, on envoie des tas d'informations, personne ne sait à quoi elles servent en fait.
François,
c'est ça le problème.
François Omri voulait réagir à ce sujet.
Oui, moi je suis assez en accord avec ce que dit Monsieur Serre. On a une problématique effectivement d'une administration qui consomme de la donnée et on a un peu parfois l'impression que cette boulimie ne débouche pas sur une certaine forme de fluidification des rapports, etc. Donc, pour le coup, là, je suis assez d'accord. Et par ailleurs, moi, je suis pas favorable à ce qu'on atténue ou à ce qu'on supprime les normes a priori, comme si c'était la norme qui pesait comme une contrainte sur les entreprises. Moi, ce que je crois, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises ne sont pas à égalité devant ces contraintes normatives et qu'il faut, s'agissant des petites entreprises, il faut avoir une aide personnalisée. En fait, c'est ça le problème. Il faut que l'administration, le service public, finalement, se dote de cette mission d'aider les petites entreprises et les chefs d'entreprise à affronter ces normes administratives-là, au moins dans un premier temps. S'il est établi que la norme est contre-productive, à ce moment-là, on en discute, là encore, on en discute socialement, on y travaille, et si vous la supprimez, on la supprime. Mais en amont, ce qui est important, je le crois, c'est aider les entreprises qui n'ont pas les moyens de l'affronter en interne à affronter la norme. Et c'est, je crois, une mission plutôt honorable pour les services publics.
Et on suivra donc les annonces après le Conseil des ministres de Bruno Le Maire à ce sujet. François Omeril, président de la CFE-CGC, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous. Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Sud Radio 9h57, dans un instant, Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gonsman qui reçoivent ce matin la journaliste et réalisatrice Camille Le Pomélec. Bonne journée sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+.
Sud Radio. We'll be right back.